Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir, comme à l'accoutumée, l'émission concernant la Palestine. Et j'ai l'honneur de recevoir dans les studios de Radio Calade Salah, responsable de l'association humanitaire Humanter, anciennement CBSP, le comité de bienfaisance de solidarité pour la Palestine. Donc c'est pas une thématique qu'on a l'habitude d'aborder dans cette émission. Donc on a fait le choix quand même d'aborder ce thème aujourd'hui avec notre invité pour qu'on aborde quand même tous les tenants et les aboutissants de cette thématique et en même temps de cette problématique. Donc il est là. Si tu pouvais te présenter, Salah, pour nous en dire un peu plus.
Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Calade. Donc, je me présente, je suis Berbagi Salah, donc le responsable de l'association humanitaire, ex-CBSP, ex-comité de bienfaisance et de secours palestinien. Donc, ça fait depuis 2003 que j'active au sein de cette association, qui est une association d'aide humanitaire à la Palestine. Et principalement, on va dire, à la bande de Gaza, au camp de réfugiés palestiniens au Liban et en Jordanie, et aussi en Cisjordanie. Donc, on va dire que nos actions sont pratiquement à 90% concentrées sur la Palestine.
Alors, une présentation globale de cette association, son parcours, l'initiation de celle-ci, si tu pouvais.
Oui. Alors tout d'abord, notre association a été créée en 1990, donc après la première intifada. Donc elle a été créée par des étudiants palestiniens à Mulhouse. Donc des étudiants qui étaient touchés un peu par la situation que les Palestiniens vivaient avec justement cette première intifada. Donc elle a été créée à Mulhouse. Et avec, on va dire, l'essor de cette association-là, ils ont créé un siège sur Paris, donc une association sur Paris, qui a répondu en fait justement à l'appel à la solidarité des personnes ici en France qui voulaient aider le peuple palestinien. Donc la création de l'association sur Paris, donc le siège, et plus tard d'autres bureaux, donc la solidarité qui est devenue encore plus nationale, hein, c'était le premier intifada, la répression contre le peuple palestinien. Donc quelques années plus tard, une antenne a été créée sur Lille, dans le nord de la France, une antenne après a suivi sur Lyon, et une antenne sur Marseille, pour couvrir un peu toute la France et la réponse aux souffrances du peuple palestinien des gens qui se trouvent en France.
Alors, après nous avoir fait une bonne présentation de l'association, vos axes de travail, justement, sur lequel vous travaillez le plus dans votre association?
Alors, un des axes principaux de notre association, c'est surtout les populations les plus défavorisées en Palestine. Donc, principalement, ça a été dans notre association beaucoup le parrainage d'orphelins. Donc, l'aide aux enfants qui se trouvent dans une situation difficile. Donc, notre association, ça a été cette aide aux orphelins. Donc, le moyen de les aider, ça a été la prise en charge, par exemple, d'un enfant. Une prise en charge matérielle en transférant de l'argent en Palestine avec les associations partenaires sur place. Et en même temps, la deuxième chose qui est très importante au niveau de ce parrainage, c'est surtout aussi la communication avec les orphelins qui étaient sur place. Donc la personne qui parrainait un orphelin pouvait être en contact avec la famille. Donc c'était pas simplement une aide financière, c'était aussi une aide morale, être en contact avec la famille qu'on parraine et pouvoir dire qu'il y a des gens qui vous soutiennent et qui sont là. Donc ça a été ça, le principal projet. Après, on va dire, les autres projets, ça a été toujours des projets qui allaient dans le sens des besoins sur place en Palestine. Donc ça a été, par exemple, comme l'alimentaire aussi, qui est, on va dire, avec les différents blocus, par exemple, comme dans la bande de Gaza. Donc des projets surtout qui sont axés sur l'alimentaire et sur les projets médicaux avec le manque de médicaments sur place en Palestine. Donc c'est souvent, en fait, il y a des associations avec lesquelles on est en partenariat, parce que le CBSP, En fait, son action, il l'amène en partenariat avec des associations en Palestine, hein, plus d'une soixantaine d'associations, voire plus, avec lesquelles on a travaillé depuis 1990. Donc, ces associations nous soumettent des projets, et nous, avec le, on va dire, un conseil d'administration, donc on étudie le projet sur place, est-ce qu'il va être bénéfique à la population sur place. Donc, on essaye toujours de choisir des projets qui vont aller dans le sens
du besoin
sur place, voilà. Et en fonction, on choisit et on finance ce projet-là grâce aux dons collectés.
Alors la question qui revient souvent, c'est comment est acheminé ou comment sont acheminés les dons vers la Palestine,
voilà.
Et plus particulièrement vers Gaza.
Alors comme vous le savez tous, la Palestine c'est un sujet très sensible, et donc là, aider financièrement la Palestine, c'est quelque chose aussi qui était par le passé un peu moins compliqué, mais avec la situation un peu internationale, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Mais bon, par le passé, ça a été toujours des virements, en fait, des virements vers nos associations partenaires sur place, donc vers leurs banques, pour pouvoir déjà financer le projet sur place en Palestine. Et ça peut être aussi du matériel qui pouvait passer par convoi, donc nous, avec le CBSP à l'époque, qui est devenu aujourd'hui humanitaire. Donc c'était des convois humanitaires par le point de passage de Rafah. En fait, on avait beaucoup l'habitude de travailler avec des partenaires aussi en Égypte.
Rafah, pour préciser à notre public, c'est la frontière entre Gaza et l'Égypte.
Voilà, c'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette frontière entre Gaza et l'Égypte, en fait, elle était avant 2014. Donc on pouvait acheminer du matériel. On a eu pratiquement entre 2009 et 2014 plus d'une vingtaine de convois qui sont passés par le point de passage de Rafah. Et ce point de passage-là, c'est un point de passage qui est réservé en fait à l'aide humanitaire et au passage des voyageurs, en fait, hein, des Gazaouis qui sortent de Gaza ou qui rentrent à Gaza.
Et ça peut être aussi des gens qui rencontrent des difficultés de santé.
Voilà, exactement.
Pour se soigner
à l'intérieur. Voilà. Donc on utilisait ce point de passage en fait par l'Égypte pour acheminer du matériel, tout ce qui concernait, c'était vraiment très strict. Moi, je suis rentré deux fois par le point de passage de Rafah, et ils demandent vraiment un respect, que ce soit vraiment du médical, en fait. Il nous arrivait, par exemple, une association de ramener plusieurs ordinateurs portables ou toute autre chose qui ne concerne pas le médical, les autorités égyptiennes ne laissaient pas passer le matériel.
D'accord.
Donc, un des moyens d'aide à la population palestinienne, par exemple, sur Gaza, donc c'était ces convois humanitaires, donc la collaboration avec des associations de médecins égyptiens. Donc on pouvait ramener du matériel médical d'Égypte, donc acheté en Égypte. Ça nous évitait toute la logistique d'ici en France ou toute. Donc le passage par ces convois-là, par le point de passage de Rafah, donc de l'alimentaire, on avait beaucoup de choses qui passaient.
Alors quand tu dis le passage et l'achat du matériel sur place ou à la frontière. Ça exige aussi de tisser un lien avec certaines ONG.
Oui.
Les liens avec les ONG. Alors moi, j'ai tout de suite à l'esprit celle qu'on a évoquée dans notre émission, c'est l'UNOROA. C'est un peu l'antenne de l'ONU, c'est ça?
Oui, ils sont très présents sur place.
L'antenne humanitaire de l'ONU.
Ouais. Voilà, ils sont très présents sur place à Gaza. Vous avez beaucoup d'écoles qui sont dirigées par l'UNRWA ou des associations ou de la distribution de l'aide alimentaire. On a par le passé beaucoup travaillé avec eux. Et donc, on a eu un partenariat. Là, je vous expliquerai aussi que tout à l'heure, un peu plus en détail, qu'on a un projet encore avec l'UNRWA face à nos difficultés. Là. Donc, on arrive après 2014, où la situation est un peu plus compliquée. Donc, l'Égypte, elle ferme un peu plus le point de passage de Rafah. Donc, c'est très, très difficile. Donc, entre 2009 et 2014, on a plus d'une vingtaine de convois qui passent. Et là, entre 2014 et 2019, il y a peut-être un ou deux convois qui sont passés avec grande difficulté. Donc moi-même je devais rentrer, mais les autorités égyptiennes nous ont empêchés de rentrer. Heureusement que le matériel médical est quand même passé, mais après 2014, donc nous on agit plus maintenant, vu que les transferts d'argent déjà vers la Palestine c'est un peu plus compliqué, donc on accentue un peu plus nos travails sur le matériel, en fait, ce qui va passer par soit par le point de passage de Rafah, ou soit par d'autres points de passage israéliens, donc pour aider la population sur place en Palestine.
Tu veux dire qu'aujourd'hui, la question de l'argent pose un problème?
La question de l'argent.
La part des autorités égyptiennes, voire, elles mettent un obstacle.
Alors, c'est pas par l'autorité égyptienne, c'est plus en fait par, malheureusement, des fois les banques françaises qui nous disent « Non, on ne veut pas de transfert direct vers la Palestine ». C'est pour ça qu'on essaye, par exemple, au lieu de faire un transfert pour acheter, par exemple, de l'alimentaire à un commerçant sur place à Gaza, on va maintenant, donc la banque, elle va nous dire non, essayez de trouver un partenaire européen pour pouvoir travailler sur la bande de Gaza. D'accord. Donc nous, ce qui va nous obliger, à, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, à créer un partenariat avec une association, par exemple en Angleterre ou en Turquie. Donc eux, ils vont acheter le matériel. Et nous, on va régler cette, donc on va faire un transfert bancaire de France vers la Turquie ou vers l'Angleterre pour pouvoir faire ce partenariat. Et eux, c'est eux qui vont se charger de la logistique jusqu'à la bande de Gaza. Donc la Turquie, ils ont des accords avec Israël, donc ils peuvent acheminer voilà, sans trop de problèmes sur la bande de Gaza ou sur la Cisjordanie de l'alimentaire ou toute autre chose. Et on a certaines associations en Angleterre aussi avec qui on est un partenaire qui n'ont pas cette difficulté de virement vers la Palestine.
D'accord. Donc en France, c'est un véritable problème. Alors, on dirait qu'il y a que ces deux aspects, l'alimentaire et le médical. Est-ce qu'il existe aussi des campagnes où, je sais pas, moi je vais dire un peu n'importe quoi, mais par exemple à la rentrée d'école, pensez aux enfants ou... Alors, une campagne sur le scolaire, par oui. exemple, acheter des cartables
alors,
ou...
alors exactement, au niveau de notre association, donc humanitaire, on a même du CBSP, hein, depuis de très longues années, on a toujours eu à la rentrée au mois d'août une association qui s'appelle Cartable Scolaire, bah, qui vise tout simplement à aider les enfants palestiniens dans leur éducation scolaire. On a aussi des fois, on collabore avec certaines universités sur place dans la bande de Gaza pour payer les frais d'inscription de certains étudiants. Donc on accentue vraiment sur ce domaine-là, sur l'éducation.
D'accord. Donc ça, tu as parlé des difficultés. Et aujourd'hui, les projets en cours, je ne pense pas que ça casse la dynamique, même si aujourd'hui vous rencontrez certaines difficultés ou certains obstacles. Mais il y a des projets en cours qui sont prévus.
En fait, on a des projets qui se répètent déjà chaque année. On a donc ce projet-là déjà du cartable scolaire. On a le projet actuellement de l'hiver solidaire. Il faut savoir qu'en Palestine, vous avez l'électricité peut-être 2 à 3 heures par jour.
Par jour,
voilà. Ouais, donc avec le froid et tout ça, c'est assez compliqué pour eux. Donc on a souvent cette opération d'hiver solidaire. Et qui peut être simplement des aides, des couvertures, des vêtements pour les nécessiteux sur place, pour les Palestiniens en difficulté. Ça peut être aussi, dans l'hiver solidaire, trouver des moyens pour que les familles, par exemple, se réchauffent avec des systèmes, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des radiateurs, en fait, qui fonctionnent sans alimentation électrique, avec un générateur. C'est des projets qu'on a déjà faits. On a des projets aussi qui concernent l'eau. Là, actuellement, on a le projet d'un puits sur la ville de Jabalia, parce que l'eau aussi, c'est un grave problème en Palestine. L'eau, elle est contaminée à cause des déchets, tout simplement. Il n'y a pas de déchetterie à Gaza. Donc l'eau, les déchets qui vont être à Gaza, ils vont être stockés dans un coin et ça va s'accumuler. Ouais. Et le problème, ça va polluer l'eau qui est épuisé en fait dans les puits. Donc il y a ce problème de l'eau. On fait qu'on a constamment des projets par rapport à ça. Donc on a souvent des projets qui reviennent au long de l'année. Mais là, le projet actuellement, c'est surtout, on va viser un peu ce problème de l'eau.
D'accord.
Et surtout aussi le médical, parce que là actuellement, le vrai souci à la bande de Gaza, c'est un problème alimentaire. Et c'est un problème aussi médical. Il manque beaucoup de médicaments. Et moi-même, quand je suis parti en Palestine, en 2013, donc, j'ai visité des familles. J'avais des personnes qui étaient condamnées, qui manquaient de médicaments, des personnes qui avaient des cancers, des personnes qui avaient des diabètes, des personnes qui... Et je voyais en face de moi des personnes qui n'avaient pas les médicaments pour être soignées et qui, tout simplement, je me rappelle d'avoir rencontré une mère de famille en 2011. Elle était vraiment malade. On visitait des familles à l'époque sur toute la bande de Gaza. Et je la sentais, elle était vraiment en difficulté pour se déplacer. Elle m'a très bien accueilli chez elle. Quelques années après, en 2013, quand je suis retourné sur la bande de Gaza, on m'a dit qu'elle était décédée. Donc,
dû au
manque de médicaments. Donc les médicaments, c'est vraiment important. C'est la chose, on va dire, l'alimentaire. Le blocus qu'il y a dans la bande de Gaza depuis 2007, il fait qu'il y a très peu de choses qui rentrent. Avant, il y avait les tunnels un peu qui compensaient un peu le blocus sur la bande de Gaza. Et là, depuis que l'armée égyptienne a rasé pratiquement une partie de la ville de Rafah, donc ça a vraiment accentué la destruction de la plupart des tunnels qui étaient un peu un échappatoire pour les Palestiniens du blocus israélien. Ce qui s'est passé, c'est que depuis la destruction de ces tunnels, il y a un grave manque d'alimentaire parce qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient passer.
D'accord. Donc ça, c'est un peu.
Voilà. La crise alimentaire et médicale.
Les associations humanitaires comme la vôtre, oui, sont toujours aussi nombreuses sur le terrain. Elles agissent.
Elles agissent, mais on va dire dans la difficulté, parce que un des gros problèmes, en fait, nous, qui nous a un peu mis en difficulté, c'est surtout que le point de passage de Rafah est vraiment nous est fermé pratiquement. Mm-hmm. Même pour les Palestiniens, il y a beaucoup de Palestiniens qui doivent sortir de la bande Gaza pour se faire opérer. Il y en a d'autres qui doivent rentrer. Elle ouvre très rarement, peut-être sur 365 jours, elle doit ouvrir peut-être une quinzaine de jours, voire une vingtaine de jours.
D'accord.
Et ça, c'est. Je veux dire que c'est compliqué.
C'est compliqué. Ouais. On va faire une petite pause et on reprend tout de suite après la discussion.
Une parure, pas un tissu de mensonge. Portée comme une armure, elle abrite dans le songe. Elle n'est pas un murmure, elle brise le mur du son. Elle flotte sur les maisons quand les gosses s'en vont. Elle est un brancard pour bébé sur le champ de bataille. Elle se bagarre pour la paix même quand des tanks attaquent. C'est un rempart de désespoir face aux bombes chimiques. À l'idée de terrorisme à tort on l'assimile. Au milieu des ruines, elle sert de tapis de prière. Et la minute qui suit, à jeter des pierres. En guise de front, quand l'affront se fait ressentir, elle est emblématique de la lutte face à l'empire. Elle n'est pas à la mode, elle est à la marge du monde. C'est le seul dress code d'une vérité qui gronde. On l'érige en symbole sur les cinq continents de Chavez à Ahed. Elle brise à temps de silence. Même quand la vie lui échappe, que les chars lui roulent dessus, elle reste digne des chars, même la mort à perte de vue. Combien de larmes tu as versées, de sang et ton vêtu, on péfié, depuis le temps tu ne sèmes plus. Les territoires occupés, les colons la piétinent. Elle a rien à faire avec ceux qui commettent des crimes. Quand ils dépriment, ils la serrent fort contre leur cœur pour oublier l'horreur en attendant que de plus beaux jours se dessinent. Nombre d'artistes l'arborent fièrement en concert, même à milieu du conflit, car bien sûr que ça nous concerne. Ils aimeraient qu'on chante que le ciel est bleu, que le soleil brille. Je ne serai jamais de ceux qui se taisent, obéissent. Elles traversent le temps, les âges, les générations ne rentrent pas dans leurs plans. Fuient les cages et rêvent d'être une nation. Elle fait trembler l'OTAN avec courage, avec passion. Toujours proche de l'Orient contre les soldats d'occupation. On l'arbore peu importe la saison de janvier à décembre. Elle fait de bien plus belle coiffure que celle de Jacques de Sange. Elle incarne l'espoir au milieu des cendres et des anges. Elle raconte l'histoire de ce
qu'elle... Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir en direct de Radio Calade avec mon invité Salah, représentant de l'association humanitaire Humanter, anciennement CBSP, qui agit spécialement pour la Palestine. Donc, après nous avoir dressé un tableau sur ton association, sur son parcours, sur les axes de travail, sur les difficultés que vous rencontrez pour acheminer le matériel et les dons, je voudrais revenir sur une expérience personnelle que tu as traversée lors d'un voyage en direction de Gaza sur le bateau le Mavi Marmara. Et c'était en 2010. Donc, si on peut revenir dessus, parce que tu as vécu quand même une expérience assez difficile.
Oui. Alors en fait, j'étais pas sur le Mavi Marmara, j'étais sur un bateau grec qui s'appelait le Svendoni, donc qui naviguait en même temps lors de l'attaque israélienne de 2010, qui naviguait ensemble. En fait, en tout, il y avait 6 bateaux. Donc l'objectif, en fait, c'était d'acheminer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza et de, en fait, de, d'une certaine façon, de briser le blocus.
Il y avait une symbolique derrière.
Voilà, il y avait une résolution de l'ONU qui disait qu'elle encourageait toute initiative à acheminer de l'aide ou de créer des couloirs humanitaires vers la bande de Gaza. Donc nous, un peu dans le cadre
de cette... Et en plus de ça, vous étiez dans les eaux internationales.
Voilà, on était dans les eaux internationales. Donc dans ce cadre-là, donc, il y a plusieurs organisations internationales qui ont décidé de mener cette opération, en fait, d'aide à la bande de Gaza par voie maritime. Donc en fait, les six bateaux, donc trois bateaux sont partis de Grèce, d'Athènes. Donc moi, je suis parti d'Athènes avec deux autres bateaux. Qui est donc un bateau grec et avec plusieurs marins. Donc le bateau était le Svendoni et on avait un autre bateau, un sort de bateau qui transportait des maisons préfabriquées. En fait, sur Athènes, on a chargé des maisons préfabriquées parce que c'était en 2010. Juste avant 2009, il y avait eu l'opération israélienne contre la bande de Gaza, où une grande partie de la bande de Gaza avait été détruite. Donc notre objectif, c'était une centaine de maisons préfabriquées sur place pour des Gazaouis qui se trouvaient sans abri.
Sans abri, oui.
Voilà. Et vous aviez trois autres bateaux, dont le Mavi Marmara, qui partait d'un port d'Antalya, je crois, d'un port de Turquie.
Bateau turc.
Voilà, bateau turc, avec deux autres cargos aussi, qui transportaient du matériel plus de reconstruction, hein, peut-être du ciment ou des choses comme ça, ou tout ce qui concernait la reconstruction. Donc tous ces bateaux, je vais passer un peu certaines étapes parce que c'est une... Donc tous ces bateaux se sont rencontrés d'abord au large de Chypre, donc on est parti en direction de la bande de Gaza. Donc les six bateaux naviguaient ensemble et à ce moment-là, donc juste avant, il y avait Ehud Barak qui était peut-être, si je me souviens bien, ministre de la Défense israélienne, qui avait dit qu'il empêcherait par tous les moyens l'arrivée de ce convoi maritime dans le port de la bande de Gaza. Donc on savait un peu, on s'attendait à que c'était risqué.
C'était risqué, voilà. Vous attendiez à être freiné, c'est ça?
Voilà, on
était
les conséquences qui ont lieu. Donc au large de Chypre, donc, tous les bateaux, on se rencontre. Donc on part de la flottille de six bateaux en direction de la bande de Gaza. En chemin, la nuit, les radars des bateaux se sont aperçus qu'on était suivis par des bateaux, des navires, sûrement des navires de guerre. Et en même temps, il y avait un avion de reconnaissance qui est passé à plusieurs reprises au-dessus des bateaux. Et on a continué notre chemin. Donc vers minuit, on a eu la marine israélienne qui nous a contactés, qui nous a dit « Vous vous dirigez dans une zone de guerre, veuillez faire demi-tour ». Ils nous ont dit « La bande de Gaza est une zone... » Voilà. Donc les différents capitaines des bateaux ont dit « Notre direction est la bande de Gaza, on va se diriger dans la bande de Gaza ». On a coupé la communication avec eux. À ce moment-là, par un système, donc les Israéliens ont brouillé un peu tous nos portables.
D'accord.
Voilà, même les satellites, hein, je sais pas, ils ont utilisé des moyens technologiques impressionnants. Donc on a continué notre marche vers la bande de Gaza. Arrivé presque à 80 km, on était dans les eaux territoriales. À 4 heures du matin, on a commencé à voir des bateaux qui se dirigeaient vers nous, des zodiacs en fait, de commando israéliens, de l'armée israélienne, qui ont commencé à se diriger vers tous les bateaux. Ça a été une attaque surprise de tous les côtés. Donc à ce moment-là, tous les bateaux se sont dispersés. Notre bateau, on a été pris d'assaut par des commandos qui sont rentrés, qui ont collé leur zodiac à nos bateaux. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils nous ont envoyé des... En fait, ils étaient armés de M16, de fusils, de plusieurs fusils d'assaut, quoi. Ils nous ont mis en joue, ils ont envoyé des tasers, des coups de taser en fait, aux gens qui résistaient.
Mmh. Et puis c'était de la résistance.
Voilà,
de
la résistance
non violente, pacifique.
Voilà, nous, on s'était mis d'accord qu'on devait résister à la façon de Greenpeace, en fait. C'est-à-dire, de faire usage de nos corps, de se tenir les bras à chacun d'une manière pacifique. Et donc, ils sont rentrés et ça a été vraiment violent, quoi. Avec des tirs.
D'accord.
Voilà. Donc, ça n'a pas été plus violent que Mavi Marmara, parce qu'ils nous ont, on va dire, tout de suite maîtrisés. Il y a plusieurs soldats qui sont rentrés un peu de partout. Donc, ils nous ont emprisonnés dans notre propre bateau. À ce moment-là, on a vu que le Mavi Marmara, on a vu même des hélicoptères, on voyait l'attaque de l'autre côté. On était à peu près une centaine de mètres du Mavi Marmara.
Ouais,
les autres bateaux, les cargos, on ne voyait pas ce qui se passe exactement. Mais on voyait le Mavi Marmara qui était pris d'assaut avec un hélicoptère, avec plusieurs bateaux. Donc, ils n'ont pas réussi à le prendre d'assaut tout de suite. Le Mavi Marmara est parti, on ne savait plus. Nous, on s'est retrouvés prisonniers dans notre propre bateau. Donc à ce moment-là, ils nous ont tous réunis dans le hall du bateau. C'était un petit bateau d'une soixantaine de personnes. Il y avait surtout des humanitaires, des journalistes. Et voilà, ils nous ont encerclés avec leurs armes. Ils ont pris la possession du bateau avec violence. Le capitaine du bateau, il a reçu carrément un coup de crosse au niveau presque de la nuque. Donc il y a eu quelques blessés comme ça, mais ça a été surtout des coups. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes. Parce qu'ils savaient surtout aussi qu'il y avait beaucoup de journalistes dans notre bateau.
D'accord.
Donc, à partir de là, on a navigué pendant 5 heures et on s'est retrouvés, ils nous ont emmenés en direction du port d'Ashdod, le port militaire d'Ashdod. Mmh. Et on est descendu, ils nous ont fait descendre avec deux militaires qui nous prenaient par les bras à une cadence de 10 minutes chaque personne. Ils nous ont dit, prenez simplement votre passeport. Donc là, on est descendu. Et quand je suis descendu, on m'a tendu un papier. Avant la flottille, on nous a dit si les Israéliens vous capturent, il faut signer aucun papier. Donc moi, je descends, je me retrouve dans le port d'Ashdod avec plein de militaires de tous les corps, de la marine. Et en descendant comme ça, il y a une personne qui me tend un papier, qui me dit signez ce papier-là, en anglais. Puis moi, je lui dis écoutez, le papier est en hébreu, je ne comprends pas, est-ce que vous avez quelqu'un qui parle en français ? Ils m'ont ramené une personne, j'ai une personne qui est venue, sûrement quelqu'un du Shin Bet, qui m'a dit « Est-ce que signez ce papier, ce soir vous serez chez vous ?» Et moi j'ai répondu « Je ne signerai pas ce papier ». Après elle m'a dit « Signez ce papier, vous allez aller en prison ». Je lui ai répondu « Je ne signerai pas ce papier ». Après elle a essayé de m'avoir, elle m'a dit « Signez ce papier, j'en parlerai pas aux autres que vous avez signé ». Et là j'ai refusé de signer. Et là, elle a compris que je ne signerai pas, elle m'a dit OK. Donc je suis. Donc après là, ça a été.
Il avait quelle portée ce papier ?
C'était un papier en fait qui disait. Qui dédouanait en fait les commandos israéliens qui nous ont interceptés. D'accord, dans les eaux territoriales. Ça disait voilà, je reconnais rentrer illégalement en Israël.
Une sorte d'aveu d'échec.
Donc pour passer rapidement, parce que je pense qu'on n'a plus trop le temps, c'est. Voilà. Donc là, on est dirigé en prison, et puis on ne savait pas le devenir des autres bateaux. On pensait que le Mavi Marmara avait échappé, était parti du côté de Port Saïd en Égypte. Et finalement, à minuit, nous, on est arrivé en prison à 15h30, donc on a été dirigé en prison, dans une prison de Beersheva, dans le Negev, le désert israélien. Donc on est arrivé en prison, et là on pensait que, voilà, qu'on était les seuls emprisonnés. Puis vers minuit, les Turcs qui étaient dans le Mavi Marmara, où il y avait presque 40 nationalités, donc ils sont arrivés le soir et là ils nous ont dit qu'il y a eu un carnage en fait, qu'il y a eu peut-être une dizaine de morts, une soixantaine de blessés. Et tous les bateaux en fait, tous les 6 bateaux avaient été arraisonnés par la marine israélienne dans les eaux territoriales. Et donc j'ai vécu cette expérience, j'ai pu en quelques jours vivre un peu ce que vivent un peu les Palestiniens pratiquement toute leur vie, quoi. Voilà, la violence, le droit international bafoué, nous empêcher d'acheminer cette aide humanitaire, ça a été quelque chose de... Voilà, on avait cet espoir-là de pouvoir acheminer tout ce matériel-là, et puis...
Ça a
été confisqué, et ça a été même rendu après quelques années après, même les bateaux, mais voilà, tout endommagé. Les maisons préfabriquées sont rentrées un an après à Gaza, mais endommagées, les fauteuils roulants électriques et tout... Donc voilà, ça a été une expérience un peu.
En tout cas, bravo pour votre courage et en même temps surtout pour toute la solidarité que vous apportez au peuple palestinien. Et puis on vous encourage à continuer puisque c'est un aspect qui est pas négligeable du tout, au contraire, qu'il faut encourager. Et nous, puisque l'émission touche à sa fin, on a été ravis de recevoir dans nos locaux. Puisque, comme je disais au départ, c'est un aspect qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans l'émission, et c'était intéressant, voire judicieux, de parler de cette thématique.
Moi, j'aimerais remercier les animateurs, à toi, Mabrouk, te remercier, les animateurs aussi de Radio Calade pour votre invitation. D'accord. Merci à vous.
Et puis, on aura l'occasion de reparler, pourquoi pas, si jamais d'autres occasions se présentent. Oui. Du coup, en termes d'infos locales, puisqu'on a l'habitude de présenter s'il y a des infos locales concernant la Palestine, c'est un peu le... On est en période de fête. Donc, on aura l'occasion de se retrouver le mois prochain avec une autre personne qui nous revient de Palestine, qui a fait justement un voyage, qui aura beaucoup de choses à nous raconter. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne fête pour les autres. Palestine ici, Palestine là-bas. J'étais avec Salah ce soir du CBSP, anciennement CBSP, nouvellement Humanitaire, et je te remercie de ton
merci à vous et bonne fête à tous ceux qui nous écoutent. Merci.
Salut.